休，舍弟侬，美阿拉维，舍弟维。
Vous êtes bien sur Zoom Écologie. Un peu de musique calme pour se mettre dans l'ambiance et partir, là vous savez, on en parle depuis un petit moment, au Japon. Vous êtes bien sur RFPP 106.3 FM. C'est bien l'émission Zoom Écologie. Une émission préparée encore aujourd'hui à l'arrache, avec un animateur surprise, Cyril aux commandes et Gilles en invité guest star, pour nous apporter un coup de main prépondérant ce soir.
Bonsoir, je suis un peu de rap ce soir, voilà.
Donc, comme vous avez deviné, c'est de la musique japonaise, tranquille, cool, zen, comme sont les Japonais, même en cas de situation extrême que nous écoutons. Et aujourd'hui, nous allons parler de Fukushima, encore une fois, même si c'est Noël, la veille de Noël. Pour des raisons bien pratiques, politiques aussi, malheureusement, mais aussi, on va essayer de les faire rendre bénéfiques, d'avoir une action bénéfique en essayant de tirer une part positive de la situation et en essayant aussi de s'amuser un petit peu avec ce qui se passe, parce que ça devient franchement énorme et on va essayer de relever un petit peu tout ça. Alors, comme j'ai préparé un petit peu à l'arrache cette émission ce soir, je vais présenter le plan à les animateurs qui m'accompagnent. Donc, je voulais commencer par un petit truc tout bête, parce que Zouzou, Fukushima, on en parle beaucoup, plus peu trop officiellement. Les médias mainstream se taisent comme il faut, et ça crée une ambiance un petit peu particulière entre ceux qui suivent les informations réelles et les autres qui vivent dans un monde un petit peu merveilleux, un petit peu le monde d'Alice au Pays des Merveilles.
Oui, compagnie, oui.
Voilà,
oui,
voilà. C'est là qu'on peut dire...
Mais c'est fini Fukushima, non ? C'est fini,
oui,
hein.
C'est fini. Tout va bien. C'est terminé. Le Japon va bien. Le nucléaire, c'est merveilleux. C'est magnifique.
Et c'est surtout moins cher.
Et surtout moins cher. Bref, une belle ambiance de matrice. Et vive les artistes qui nous ont pondu des films dont les scénarios commencent un petit peu à se bousculer en ce moment dans l'actualité. Que ce soit Matrice ou d'autres, je vais me rappeler tout à l'heure, comme 1984 et autres.
Oui.
Bref, on peut dire un grand merci aux artistes qui ont... un petit peu préparer le terrain. Donc je vais vous lire juste un petit truc qui revient, un petit paragraphe qui s'appelle « Pilule rouge ou pilule bleue ». Ça vous rappellera bien quelque chose. « Tu es dans la matrice. Tu voudrais savoir ce qu'elle est. Alors je peux t'indiquer la porte, mais toi et toi seul pourras décider de la franchir. Alors que décides-tu ? Prends la pilule bleue et tout s'arrête. Après tu pourras faire de beaux rêves et penser à ce que tu veux. » Ou choisis la pilule rouge et tu restes au pays des merveilles et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Mais n'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus. Ça colle bien avec Fukushima actuellement, ouais. N'est-ce pas ?
Mais pour parler de cinéma, on peut aussi dire qu'effectivement, il y a Le jour d'après qui est pas mal aussi à regarder, à voir et à revoir. C'est sur une catastrophe, hein, mais c'est très très proche. On pourrait très bien mettre ça sur le nucléaire aussi. C'est un film écologique, hein, un petit peu. Et puis, tu as surtout Le syndrome chinois, qui est un film américain qui était
sur le. On est en plein dedans.
Ça s'appelle Le syndrome chinois. C'est avec Fonda, etc. Et ça parle d'un mec qui est dans une centrale nucléaire et qui voit qu'il y a une fuite et qui se bloque, qui bloque toutes les sécurités et qui reste à l'intérieur et il empêche donc tous les gens de rentrer. Et donc, c'est juste pour l'histoire en deux minutes.
Il travaille chez TEPCO ?
Et il ne travaille pas, non. Il aurait pu. Et donc, il veut dénoncer effectivement que le manque de sécurité d'une centrale et comme effectivement les gens qui sont les directeurs de la centrale en question, une sorte de société lambda, vont tout faire pour le faire sortir. Donc, ils vont appeler la police privée, les CRS, enfin, toutes sortes de polices. Et il finira par être tué. Donc, c'est quand même... c'est la vie, quoi. C'est la vie du nucléaire aujourd'hui. Donc,
le syndrome chinois, c'est de quel réalisateur ?
Je crois que c'est Sidney Pollack, il me semble. Mais je ne suis pas sûr. Hein. Il faudra vérifier.
Mais, cet après-midi, il y avait un gros nanar qui passait sur une des chaînes de la TNT sur les catastrophes à base de tornades. En ce moment, il y en a plein qui passent, mais c'est des gros nanars. Hein. Vraiment du lourd. Hein. Voilà, voilà. Donc, Fukushima, ça continue tranquillement. Et comme c'est Noël, moi, je vous propose de vous offrir un japonais. Pourquoi ? Parce que le japonais va devenir plus rare et plus cher que l'or. Étant donné la situation de plus en plus difficile, nous allons avoir une raréfaction de japonais. Vous qui cherchez à investir dans quelque chose de rentable et à long terme, je vous propose donc de... récupérer un japonais, le conserver chez vous et le revendre au moment où le cours du japonais aura pris de la valeur parce qu'il se sera raréfié. Et oui, tout ce qui est rare est cher. Et au pays du Japon, au pays de la chimio gratuite et pas chère, nous allons avoir une dévalorisation dramatique du japonais.
Il faut attendre janvier parce qu'en janvier, il y a les soldes et on peut avoir deux japonais irradiés au lieu d'un.
Deux japonais
pour le même prix. Hein.
Le grand marché est lancé, le marché du japonais pas cher. En plus, vous ferez une bonne action, et surtout si vous récupérez un de ces rares japonais non irradiés, non contaminés, celui-ci vaudra deux fois plus cher, et se vendra deux fois plus cher sur le marché aussi. Voilà, voilà, voilà. Donc, offrez-vous pour Noël un japonais, vous ferez une bonne action et en plus, vous profiterez d'un placement rentable. Qu'est-ce que t'en penses, Cyril ?
Je vais parler un petit peu d'un article qui est passé sur le site Bastamag, donc d'Agnès Rousseau, et qui fait un petit peu le point sur la situation, sur les conséquences sanitaires qui commence à se voir un petit peu. Donc des pneumonies, une augmentation des leucémies ou des problèmes hormonaux. Ça semble se multiplier chez les 2 millions d'habitants de la région. Les enfants sont en première ligne, hein, donc les terres, les eaux, certains aliments ont été contaminés. Et de son côté, l'exploitant de la centrale sombre dans le cynisme. Les éléments radioactifs qui se sont échappés des réacteurs ne lui appartiennent plus. La santé de nos enfants est maintenant en danger. Nous constatons des symptômes tels que thyroïde enflée, saignement de nez, diarrhée, toux, asthme. Ça, c'était un appel lancé par un groupe de femmes de la région de Fukushima depuis mars. Ils sont de plus en plus nombreux à se mobiliser pour alerter sur les dangers sanitaires de la radioactivité. Dans la zone concernée par la catastrophe nucléaire comme ailleurs dans le pays, des graphiques mis en ligne par le centre de surveillance des maladies infectieuses font apparaître d'importants pics pour certaines maladies au Japon, comme les pneumonies ou les conjonctivites aiguës hémorragiques. Les écoliers au Japon sont plus irradiés que les travailleurs du nucléaire dans certaines zones. Des prélèvements d'urine effectués par un laboratoire indépendant français, donc l'ACRO, auprès d'une vingtaine d'enfants de la région Fukushima ont montré que 100% d'entre eux sont contaminés par du césium radioactif. Un enfant examiné sur 13 aurait des problèmes hormonaux et un dysfonctionnement de la thyroïde. Donc ça, selon une autre étude japonaise, Face à l'angoisse des parents, et la préfecture de Fukushima a lancé en octobre une grande étude médicale auprès de 360 000 enfants. Donc voilà, tout ça, ça va se multiplier. On a le riz, riz contaminé. La CRIRAD a mesuré dans une cour d'école sous une balançoire une contamination de 370 000 becquerels par kilo. C'est énorme. C'est le sol devrait est devenu un déchet radioactif qui devrait être stocké, déclarait l'organisation. Donc c'est l'équivalent de la Bretagne qui est contaminée au césium. Voilà. On a aussi une étude universitaire qui évalue le niveau de contamination à l'embouchure de l'Abuku Magawa, environ 50 milliards de becquerels répandus dans la mer chaque jour, l'équivalent au quotidien du césium déversé dans la mer pour tout le mois d'avril. Voilà, donc il y a des cartes qui ont été publiées qui montrent l'étendue de la contamination au césium. D'importantes quantités de césium 134 et 137 ont été détectées dans des habitations situées à plus de 200 km de la centrale. C'est ce que révèlent les résultats publics ce 15 décembre. Donc par l'ACRO, toujours l'association pour le contrôle de la radioactivité dans l'Ouest, donc un laboratoire indépendant. Présent aux côtés de la population depuis le début de la catastrophe, les scientifiques de l'ACRO ont réalisé des analyses de poussière prélevées par aspirateur dans 13 habitations. C'est dans le district de Watari, de la ville de Fukushima, que la contamination est la plus forte, avec presque 20 000 becquerels par kilo pour les deux césiums. C'est situé à une cinquantaine de kilomètres de la centrale. Est connu, c'est connu pour être particulièrement contaminé. C'est là que la vente de riz a été interdite, souligne l'ACRO. Donc on trouve des habitations contaminées dans la banlieue nord de Tokyo. Il nous paraît important de faire des mesures systématiques dans les habitations et de prendre en compte ces risques dans la gestion de la catastrophe. Donc à la demande des citoyens japonais, le laboratoire poursuit par ailleurs les analyses d'urine d'enfants. Alors la contamination interne diminuerait, de nombreux enfants continuent quand même à être contaminés à des niveaux qui ne baissent pas depuis nos premières analyses. Donc voilà, bon, à suivre sur le site de l'ACRO. Il y a toute une chronologie déjà des nombreux événements sur le réacteur, et aussi surtout le suivi sur la population qui fait que commencer, malheureusement.
Oui, si je peux réagir par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, il y a depuis 45 ans ou 50 ans que les antinucléaires connaissent les effets des explosions de centrales ou même de bombes atomiques, hein, on le sait depuis longtemps. Puisqu'on a eu des expériences après les essais nucléaires à Mururoa, où les maladies militaires, on va dire, sont au nombre de 232 ou 250, hein, maladies par classées secrètes, hein, et qu'il n'y en a que 30, 31 ou 32 qui sont au grand jour. On sait que l'exposition au césium ou au plutonium 236 ou même à d'autres, au radium, etc., principalement, les maladies principales sont effectivement les pneumonies, principalement également pneumonie du foie, enfin toutes ces parties-là aussi.
Pneumonie, maladie du foie plutôt.
Maladie du foie, pneumonie de la thyroïde, etc. Du sein pour les femmes, la frigidité pour les hommes et les femmes aussi. Par exemple, juste un exemple après Tchernobyl, ça n'a rien à voir, c'est un rapport avec Fukushima bien sûr, mais après Tchernobyl, les villes de l'est de la France. Il y a eu le nuage qui est passé. Tout le monde a dit, les pouvoirs publics ont dit, les télévisions ont dit que c'était, le nuage s'était arrêté.
Nuage.
Il s'était arrêté à la frontière. Ce n'est pas vrai, c'était un mensonge gros comme eux-mêmes. Hein. Le nuage est bien passé. Et ben, on a constaté qu'il y avait un taux de frigidité chez les jeunes qui avaient à l'époque 18 ans dans ces villes frontalières qui était 10 fois supérieur à la normale par rapport aux autres villes qui sont plus au centre de la France. Et donc... il n'y a peut-être pas de lien, on n'a pas prouvé le lien, mais je pense que le lien existe. Donc maintenant, il faut qu'absolument que les pouvoirs publics considèrent que les antinucléaires ne sont pas des zozos humanistes complètement hirsutes et mal rasés. Il faut considérer que les antinucléaires que nous sommes, en tout cas je le sais, en tout cas pour ce qui nous concerne, on est des gens raisonnés, on sait de quoi on parle, Et il faut absolument, donc effectivement, Fukushima, c'est le sujet de ce soir, mais il faut d'une façon générale pour tous les pays du monde que tous les pays du monde sortent du nucléaire à brève ou lointaine échéance. Donc ça, c'est une nécessité absolue.
Alors, il s'avère qu'il existe aussi un nouveau courant hein, entre les pros et les anti. Ce sont souvent des groupes de gens ou des collectifs qui s'affrontent depuis très longtemps et qui se connaissent très bien. Mais il y a aussi une espèce d'entre-deux, mais pas plus porté sur la sortie que sur la continuation, où on retrouve justement des anti et des pros qui souhaitent une transition vers moins... pas ce nucléaire-là du tout, et vers quelque chose de plus viable et réaliste que ce qui existe actuellement. Hein, parce que là, on s'enfonce et on augmente, on fait exploser le cours du japonais. Donc, voilà, la situation n'est pas gagnée et il y a besoin de sang nouveau, de nouvelles idées, de nouvelles réflexions pour sortir de la situation. Alors, on parlait du nuage, mais c'est curieux comme il y a énormément d'analogies entre la situation de Fukushima et celle de Tchernobyl. Et là, on pourrait en faire même un jeu, le jeu de la dédramatisation de la catastrophe, où on aurait pu autant de Tchernobyl dire que bah, voilà, c'était les Russes, c'était les Soviétiques plutôt, pays communiste, où la liberté n'était pas forcément l'apanage de ce système. Et là, on est quand même aujourd'hui avec le Japon, un des États les plus modernes, les plus dits démocratiques, les plus libres, enfin les plus avancés technologiquement. Et on s'aperçoit qu'on retrouve exactement le même scénario hein, dans la négationnisme. Hein. Il n'y a pas une loi qui est passée aujourd'hui. Très intéressante comme loi qui interdit le négationnisme, hein, parce qu'on est en plein dedans là actuellement, un petit peu. Donc, à Fukushima, il ne s'est rien passé. Tout va bien. On a le contrôle de la centrale. On sait où est le corium. Enfin, on le sait, je le dis tout bas, mais on le sait grâce à l'informatique, hein, par la simulation. Hein. Voilà, parce qu'à Freeman Island, il y a une simulation de cette catastrophe. Là, on est quand même au-delà de cette catastrophe-là. Et on a tout simulé. Hein, et c'est comme ça qu'on sait où est le corium. Mais dans la réalité, personne n'allait vérifier. Hein. Ni la température, ni la position, ni l'exacte profondeur d'enfouissement la partie du béton dévoré par le corium, fondu par le corium, donc on est dans l'expectative la plus totale, d'où des petites surprises. Et curieusement, qu'est-ce qui s'est passé ? Ils avaient établi un plan annonçant qu'ils mettraient, alors c'est difficile à exprimer comme terme, mais ils arriveraient à atteindre l'arrêt à froid pour les réacteurs...
refroidir le réacteur
L'état d'arrêt à froid.
L'arrêt à froid, d'accord. Ils arrêtent à froid, d'accord.
Ouais. Et ils nous ont fait, c'était prévisible en plus, pondu une très très belle annonce justement sur...
C'était dans la feuille de route, donc...
Exactement, voilà, oui.
Et la feuille de route, ils annoncent un arrêt à froid. De toute façon, une partie du combustible est sous la cuve, donc ça peut être refroidi.
Voilà. Quand ils trouvent les clés pour ouvrir le balstring qui permet l'arrêt à froid. Parce que des fois, on a vu ça en France, ils ne trouvaient pas les clés du conteneur qui permettait effectivement un arrêt.
C'est vrai qu'il y a une confusion sur le thème d'arrêt à froid, parce que l'arrêt à froid, ça touche normalement des réacteurs en état de fonctionner qui n'ont pas la cuve percée.
J'entends bien.
Voilà. Ouais. Donc à l'arrêt à froid, oui, c'est on met les réacteurs dans un fonctionnement... minimum, mais ils produisent toujours la chaleur qui nécessite un refroidissement permanent. Mais là, dans le cas de Fukushima, c'est un terme complètement abusé, complètement inadéquat. Et oui, effectivement, la cuve, elle est refroidie, mais elle est vide. Elle est percée, quoi. Le corium, il s'est barré en dessous, quoi. Il est dans le béton, quoi. Donc, effectivement, hein, mais quand ils veulent mettre des thermomètres ou des équipements pour mesurer la radioactivité, c'est tellement puissant que ça je ne sais plus à combien de pannes ils en sont. Ils ont remplacé régulièrement les sondes. Il y a des valeurs aberrantes qui apparaissent régulièrement dès que l'appareil commence à être détruit par la radioactivité. Quoi.
Ouais. Moi, si tu me permets, ce qui m'étonne le plus, c'est le mensonge médiatique.
Mais non, ce n'est pas un mensonge.
Le mensonge médiatique qu'il y a eu à Fukushima.
Mais non, il suffit juste de se taire.
Au Japon, exactement. Au Japon même, mais même en France. C'est-à-dire qu'en France, on a considéré que nos centrales étaient sûres. Et on a considéré que le drame qui s'est passé au Japon était dû principalement à un tsunami, un tremblement de terre. C'est-à-dire que dans la pensée de ces messieurs qui nous gouvernent, c'est que sans tsunami et sans tremblement de terre, nos centrales ne risquent absolument rien.
Nos centrales sont sûres. Nous sommes l'excellence au monde. Oui, c'est pour ça qu'on s'est barré tout de suite du Japon.
Ce qui est faux, parce qu'en fait, nos centrales, on a bien vu, il suffit simplement d'aller, prenez votre courage à deux mains et allez voir les sites qu'il faut, comme le site sortirnucléaire.org ou bien Greenpeace, etc. On voit bien que nos centrales, elles sont, ce sont des gruyères. Ça, c'est clair, même si c'est du niveau 1, mais c'est quand même des gruyères. Et ça veut dire que, niveau 1, ça veut dire que l'eau des rivières est un petit peu, comme c'est le niveau 1, c'est vraiment le minimum, hein, est un petit peu pollué, mais ça suffit peut-être pour rendre malade les poissons qu'on va aller pêcher, et peut-être que la maladie ne sera pas très terrible pour nous, mais c'est déjà le niveau 1. Mais après, la catastrophe de Fukushima et de Tchernobyl, elle est possible en France aussi. Parce qu'on a quand même des centrales qui sont sur des sites.
On a les meilleurs des meilleurs.
Non, mais elles sont sur des plaques.
C'est pour ça que le Japon ne nous a pas demandé notre avis.
C'est ça le problème, c'est qu'il y en a des centrales qui sont sur des plaques qui, sont, qui risquent peut-être un jour de poser problème.
Alors il y a eu une tournée de parlementaires, pour venir à quelque chose de sérieux, effectivement, qui a été faite récemment dans plusieurs installations nucléaires de base, et qui a permis à ces gens qui ne sont pas des spécialistes, hein, des députés, de se rendre compte à quel point, vous pouvez voir ça en ce moment, ça passe assez régulièrement sur,
Public Sénat,
sur LCP, oui. LCP. Ils se sont aperçus quand même que c'était un peu traité avec un... On ne peut pas dire légèreté, parce qu'effectivement, c'est très bien pensé, mais le problème, c'est qu'entre la pensée d'ingénieur et la pensée pratique réelle qui nécessite en général un écologiste, donc l'interaction avec le vivant, avec l'environnement, c'est du domaine de l'écologie, eh bien, il y a un gouffre énorme. Et on s'aperçoit que des très bonnes solutions sur le papier, sur le plan ingénierie, sont en réalité des... dans la pratique, une catastrophe complète et un sacrifice total de l'environnement. Et dans plusieurs cas de INB, installation nucléaire de base, centrale, etc., ou installation de purification de l'uranium, etc., on s'aperçoit qu'on est très, très loin d'un pragmatisme lié à la sécurité. On est de ce côté-là complètement plus qu'à l'ouest.
Ouais, plus qu'à l'ouest.
Et c'est probablement... Il y a quelque chose qui cloche. Depuis l'expérience de Tchernobyl, il y a quelque chose qui n'est pas logique. On dirait que personne n'a pris expérience de la situation et Fukushima met en évidence cette situation. Alors, moi, je vous propose de jouer un petit jeu, celui de la dédramatisation. Donc, je vous donne quelques infos et essayez de réagir comme un pro-nucléaire.
D'accord.
Voilà. Donc, par exemple, il y a une fuite de ils ont trouvé une fuite d'eau contaminée en provenance du réacteur numéro 1, avec un niveau de radioactivité très élevé. Pour vous, comment ça se passe ?
Ben, nous maîtrisons d'abord la situation parce qu'effectivement, nous avons eu vent du technicien qui s'est occupé de cette cuve. Effectivement, il y a eu une petite fuite, mais elle a été immédiatement réparée, hein, puisque les gens sont arrivés tout de suite. Donc, il n'y a aucun danger. D'abord, ce n'est pas une fuite de niveau 1, c'est une fuite qui n'est même pas de niveau 1, c'est vraiment c'est une flaque d'eau, hein, à la limite. Elle a été nettoyée, elle a été lavée, les gens qui ont nettoyé cette fuite, qui ont réparé cette fuite, ont été éventuellement surveillés par nos docteurs spécifiques spécialisés dans le nucléaire. Et donc, ils n'ont absolument rien eu, hein, y a aucun danger. Il a même eu un problème parce que une sorte de plan hors sec lié au nucléaire a failli être déclenché, mais par défaut, parce qu'un de nos techniciens a pris peur et a failli déclencher l'alerte. Mais les autres techniciens l'ont tout de suite maîtrisé en disant que tout était maîtrisé, donc il s'est calmé. Donc actuellement, il est en repos. Donc tout le monde peut dormir sur ses deux oreilles. L'énergie nucléaire en France ne risque absolument rien. Nous maîtrisons la situation.
Un journaliste aurait vu la méthode de circonscription de cette fuite. Il serait apparu que la flaque d'eau aurait été contenue par des sacs de sable.
Oui, ça, c'est ce qu'il dit dans son, ce qu'il dit dans son article. Mais en fait, c'est une erreur. En fait, la flaque d'eau n'a pas du tout été arrêtée par... La flaque d'eau n'a pas du tout été arrêtée par du sable. La flaque d'eau a été arrêtée avant même qu'elle touche le sable. C'est-à-dire que on a eu... je vous dis, on a quand même les meilleurs techniciens du monde. Nous avons les meilleurs techniciens, donc ils ont tout de suite vu le problème, ils ont tout de suite su ce qu'il fallait faire tout de suite.
Bien. Suite à l'explosion des réacteurs, le site de Fukushima Daiichi est contaminé. Oui. Le rayon de 20 km autour de Fukushima est contaminé.
Oui.
On a des taches en léopard jusqu'à 80 km où c'est contaminé. On a des écoles avec des niveaux de radioactivité contaminés, élevés. On retrouve du strontium à Tokyo. On retrouve du césium. Que pensez-vous de la situation ? Y a-t-il un danger ?
Alors moi, en tant que, pour le jeu, en tant que pro-nucléaire, j'ai avec des parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale été sur place. Donc je peux vous dire que tout ce que vous venez de dire est faux. La véritable information.
Nous avons des preuves et des photos.
Oui,
des mesures.
Qui a fait ces photos ? C'est encore des anti-nucléaires en colère qui veulent nous prouver que le nucléaire est inutile et que ça sert à rien. Or que le nucléaire, c'est moins cher que le fuel, moins cher que le pétrole et ça couvre l'ensemble du territoire. En tout cas, en France, il y a aucun danger. Mais pour ce qui est du Japon, donc on parlait du Japon à l'instant. Ce que vous dites est vrai pour la partie des 20 km, d'abord des 10, ensuite des 20 km, mais les Japonais ont fait appel à des techniciens de chez nous. Donc nous avons envoyé des techniciens là-bas, et j'y étais voir même sur place un peu la situation. Et effectivement, nos techniciens ont su donner les bonnes informations aux techniciens japonais qui ont pris l'initiative tout de suite pour éradiquer le danger.
À propos des techniciens, il semble qu'il y ait une capacité de résistance à la radioactivité beaucoup plus élevée au Japon. Les normes de minimales de dosimétrie ont été augmentées jusqu'à, je crois que c'est 200 ou 400 millisieverts par an. D'où vient cette super résistance ? Est-ce qu'il y a un gène particulier chez les Japonais qui leur permet de mieux résister à la radioactivité que dans le reste du monde, où même les travailleurs, par exemple en France, sont limités à 20 millisieverts par an ? D'où vient ce super pouvoir ?
Alors pour ce qui est des Japonais, ils n'ont pas de super pouvoir, ce sont des humains comme les autres. Ils sont normalement, ils fonctionnent à 20 millisieverts comme les autres. Donc je ne sais pas d'où vous sortez vos chiffres. Moi j'ai les miens, je vais vous les donner. Donc a priori, non, ils sont comme tout le monde. Sauf qu'effectivement, ils résistent plus peut-être parce qu'en fait on ne les laisse pas longtemps près de la zone contaminée. Donc on les change, les gens se... Nous avons pas mal de personnel, puisque c'est quand même un grand pays, le Japon, et il y a beaucoup de monde. Donc, effectivement, les gens sont en place et ils ne restent pas plus longtemps. Ils restent 10 minutes, un quart d'heure sur le site, et puis après, ils s'en vont. Et on prend l'initiative et on prend tout est conforme à la sécurité de la santé publique au Japon, comme en France, comme ailleurs. Donc, non, vos chiffres, je ne sais pas d'où vous les sortez, sans doute d'un réseau de...
Alors, selon TEPCO, les techniciens de TEPCO, les ingénieurs de TEPCO seraient plus résistants. Hein, c'est ce qu'ils annoncent en augmentant les valeurs. Voilà d'où venaient les...
Oui, parce qu'il faut certainement donner des chiffres. Parce que, bon,
ce sont des gens qui travaillent dans le nucléaire. Donc, visiblement, ils ont des résistances qu'ils ont développées au fur et à mesure du temps.
Si vous voulez, monsieur, c'est comme pour les manifs. La police dit qu'il y a 300 personnes et les manifestants 3000. Donc, il faut bien trouver un chiffre. Vous vous dites que c'est 20. Moi, je ne dis pas que c'est 20. Je dis que ça peut être 100 ou 500. Ça, chacun dit ce qu'il veut, en fait, dans l'histoire. Le problème, c'est scientifique. Bon... je ne suis pas scientifique moi-même, mais en tant qu'élu, on va dire ça pour rigoler, il faut quand même qu'il y ait des chiffres qui soient 20 millisieverts par an, c'est la base
c'est
minimale.
Petit, c'est petit, base, c'est rien. Minimum, quoi.
Bon,
c'est...
300, comme dirait éventuellement...
C'est un bon chiffre.
C'est un chiffre qui paraît un peu exagéré. Disons 150, coupons la part en deux.
150, soyons scientifiques. 200.
Bon, 200, d'accord.
250, parce qu'il 200. Y en a qui dépassent et qui le font.
Je vous accorde 200.
D'accord. Bon, donc c'est quand même des super techniciens hyper résistants. Alors j'ai encore une autre question. Il y a des scientifiques un peu taquin, mais des scientifiques de différents pays, donc internationaux, des Américains, des analystes australiens, anglais, même japonais, qui disent que le gouvernement ne dirait pas la vérité sur ce qui se passe exactement au Japon et sur les mesures données, qu'on ment au peuple et qu'on leur empêche de prendre les bonnes décisions de par l'occasion.
Je crois qu'en tant que journaliste, vous êtes de parti pris. En fait, dans vos questions, vous avez une tendance à vouloir démontrer que le nucléaire est dangereux. Ce qui est totalement faux, a priori. Donc, jusqu'à maintenant, en France, depuis 50 ans qu'on est sous le nucléaire, il n'y a pas eu une catastrophe. La catastrophe, au Japon, elle est naturelle. C'est un tremblement de terre. Bon. Et ça a été maîtrisé par l'ensemble des gens qui travaillent sur le système. Maintenant, après, si vous trouvez des choses à redire, bien sûr, on trouvera toujours un problème quelconque. Un mec qui prend de l'argent en douce pour les politiques, un mec qui est dans une affaire d'État à tel endroit, TEPCO qui donne des chiffres qui ne sont pas toujours les vrais chiffres. Mais chacun a ses chiffres, donc chacun les donne, et puis après, on voit, on fait la part des choses. Non, le nucléaire, c'est une énergie qui est sûre. Surtout en France, parce que nous, on maîtrise bien le système. Donc, par contre, au Japon, il y a eu souci, mais ça, c'est pas de leur faute. Eux, ils ont eu une catastrophe quand même.
D'accord. C'est pour ça. Alors tout va bien. C'est pour ça qu'ils ont réouvert une école maternelle à 25 km de la centrale.
Non, moi,
tout va bien.
Je trouve ça bien de réinvestir les lieux.
On repart comme en 40.
Oui, c'est bien de réinvestir les lieux. Les lieux sont maintenant sûrs, donc on peut revenir sur les lieux. De la catastrophe. D'ailleurs, on pourrait même monter éventuellement des manèges avec des prises de photos de la catastrophe, faire un musée, faire visiter les choses par des touristes avec des petits gadgets, les centrales nucléaires en porte-clés, je ne sais pas moi, des trucs machins comme ça, vous voyez. Relancer le tourisme au Japon, parce que là, maintenant, le Japon est boudé, mais pourquoi ? Si demain, vous avez une avalanche dans le Jura, est-ce qu'on va bouder le Jura parce qu'il y a une avalanche, quoi ? Je veux dire...
D'accord.
Bah ouais, on va voir, on va faire une petite pause, on va voir si vous avez vraiment été bon. On va écouter Anne Lauvergeon.
Situation française aussi, mais d'abord Anne Lauvergeon, un mot du Japon. Avez-vous des informations ? Il y a deux scénarios, l'un plutôt optimiste, on arrive à refroidir le réacteur, l'autre plutôt pessimiste, et on a vu que ça pouvait mener très loin. Êtes-vous inquiète ce soir ?
Bien sûr que je suis inquiète. Je pense que d'abord, on est en face d'une catastrophe très, très importante au Japon, une catastrophe naturelle, un tremblement de terre d'une magnitude très, très élevée, un tsunami gigantesque. Il est clair qu'effectivement, le Japon est aujourd'hui extrêmement touché et avec des moyens de faire face à la crise nucléaire qu'ils connaissent, qui ne sont pas les moyens habituels.
Est-ce que vous diriez que c'est aussi une catastrophe nucléaire à laquelle on assiste ?
Non, pas une catastrophe, puisque aujourd'hui, je l'espère, ça c'est la version positive, je crois qu'on va éviter la catastrophe nucléaire. Nous sommes effectivement un petit peu entre les deux. Le sujet, donc tous les réacteurs japonais, les 55 réacteurs, au moment du tremblement de terre, se sont tous arrêtés d'urgence, comme il est prévu, il n'y a eu aucun problème, et visiblement d'ailleurs pas de conséquences du tremblement de terre significatives. Par contre, derrière, le tsunami a été une hauteur sur Fukushima qui n'était pas prévue. Par les gens qui ont construit ces centrales. Donc la situation aujourd'hui, c'est qu'effectivement l'alimentation, une fois que le réacteur est arrêté, d'ailleurs on n'est pas du tout dans la situation de Tchernobyl. Tchernobyl, c'est un réacteur qui fonctionne et qui explose. On est tous mentalisés là-dessus. Mmh. On a tous été traumatisés par Tchernobyl. Donc immédiatement, on a ça en tête. Non, c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que les réacteurs sont arrêtés, mais que les combustibles qui sont à l'intérieur doivent être refroidis.
Ils continuent à chauffer.
Il faut les refroidir. Alors,
Est-ce qu'on va y arriver d'après vous ?
Alors,
d'après les informations que vous avez.
Et sur le 3, effectivement, TEPCO, l'électricien nucléaire japonais, a su trouver les moyens de mettre en place l'eau pour refroidir.
Et une fois que c'est sur fait, ça signifie que ça va refroidir
2,
forcément.
Ah oui, tout
pour
à fait.
Le 1 et le 3.
Ah oui, on a 8-9 mégawatts produits par réacteur, c'est quelque chose de très connu. Et chaque jour qui passe, est un jour de gagné, c'est-à-dire que la température effectivement se stabilise, enfin diminue, et donc le temps est absolument clé. Les trois jours que nous venons de vivre, qui sont trois jours terribles, et je voudrais d'ailleurs saluer le formidable sang-froid de toutes les équipes de TEPCO et de l'autorité de sûreté nucléaire japonaise. Alors, nous sommes aujourd'hui sur le 1 et le 3 dans une situation qui est, avec le départ d'hydrogène, qui a été volontaire, le dégazage, je dirais, plus rassurante. Alors sur le 2, sur le réacteur numéro 2, eh bien, il faut effectivement qu'il trouve un moyen de mettre en place les quantités d'eau adéquates.
Les experts japonais, les ingénieurs japonais semblent un peu désemparés. On voit qu'ils font appel à des experts de l'AIEA, des experts américains aussi.
C'est tout à fait classique, c'est-à-dire que ce sont des réacteurs qui sont de design américain, donc appeler des ingénieurs qui ont fait ce design est tout à fait classique, et appeler l'AIEA est aussi une réaction tout à fait normale.
Quelles sont les chances, quelle est la chance à laquelle vous évaluer le risque d'arriver à refroidir ce réacteur numéro 2.
Il est impossible aujourd'hui de faire des probabilités pour savoir, d'abord, nous n'avons pas tous les éléments de connaissance qu'a TEPCO aujourd'hui sur le sujet. Bon, moi je voudrais dire que je comprends aussi très profondément l'émotion de tout le monde. Alors même si certains instrumentalisent un peu les peurs, comme on l'a vu dans certains de ces reportages, il est tout à fait normal, effectivement, aujourd'hui de s'inquiéter.
Est-ce qu'on doit en tirer des enseignements, nous en France, et lesquels ?
Ah ben écoutez, nous les enseignements, on les a déjà tirés dans tous nos designs, c'est-à-dire que tout ce que nous proposons aujourd'hui de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, ce sont des réacteurs qui, par exemple, même en cas de fusion de cœur, événement extrêmement improbable, eh bien il n'y aura pas de fuite dans l'environnement. Donc nous avons intégré toutes ces leçons. Alors c'est d'ailleurs quelque chose qui parfois, on le reprend avec un peu d'ironie, il y a eu une grosse polémique pendant un an en France sur le fait que nos réacteurs étaient trop sûrs et que notre troisième génération était beaucoup trop développée dans ces domaines. Je crois qu'aujourd'hui, les réacteurs low cost, bah, c'est pas ça l'avenir.
On dit nos réacteurs à nous.
C'est très fort, hein, oui.
Ouais, pardon, les réacteurs low cost, c'est pas ça l'avenir, c'est sur cette petite phrase d'Anne Lauvergeon qu'on va finir ce petit interview. Ça date du 14 mars,
d'accord.
Donc c'était dans le 20h. Le 20h avec Poujadas, on a quand même entendu Lauvergeon dire que ce n'était pas une catastrophe nucléaire.
Oui, c'est quand même très fort. Hein. C'est quand même très fort. Ouais, c'est vrai.
Et ben...
Bon, pour revenir à ton petit jeu où je me suis positionné comme un pro-nucléaire.
Très réaliste.
Très réaliste, on va dire. Je ne sais pas. C'est quand même très fort que cette dame, qui a quand même été aux responsabilités à Areva en France, puisse dire des choses pareilles quand même. C'est quand même...
Mais ce n'est pas la seule. Apparemment, le poste provoque une distorsion de la réalité et de la vérité.
C'était le 14 mars. Hein,
14 mars, oui. Bon, aujourd'hui, après, 9 mois après, le corium n'est toujours pas refroidi correctement. On ne sait pas où il est exactement. Par contre, donc, comme annoncé par le gouvernement officiel, il faut quand même savoir que le Premier ministre Naoto Kan a démissionné. Donc ce gouvernement est pro-nucléaire à fond. Donc ils ont annoncé politiquement l'arrêt à froid. Et puis aussi, tant qu'on y est, dans 40 ans, on aura résolu le problème.
C'est pas dans 400 ans.
Hein. Oh non, 40 ans, quand même, on va pas être négatif.
Ouais, c'est les fêtes de Noël bientôt.
Voilà. Oh, d'ailleurs, il y a une rumeur à propos de fêtes de Noël. Il dit pas besoin de guirlandes cette année. Invitez des Japonais et vous aurez de la lumière gratuite. Voilà. Mauvaise langue. C'est pas bien. C'est pas bien. On enchaîne sur des choses un petit peu plus sérieuses.
Oui, bien sûr.
Je pourrais parler d'un partenariat qui s'est fait avec la CRIRAD et les Japonais, justement, pour créer l'équivalent de la CRIRAD au Japon, qui s'appelle la CRMS, et qui a pour travail de faire à peu près le même boulot que la CRIRAD en France et qui intervient aussi internationalement. Je vous donne le site parce que ça peut être intéressant, c'est en.crms-jpn.com. Apparemment, le représentant serait Wataru Iwata. Je ne vais pas vous lire l'ensemble du document parce que ça correspond à l'activité de la CRIRAD. Donc, si vous voulez aller sur la CRIRAD, crirad.org, pour avoir plus de détails sur le travail effectué. C'est essentiellement pour mesurer ce qui n'est pas mesurable avec un compteur GGR classique, c'est-à-dire l'alimentation, le sol et l'eau. qui nécessite des équipements un peu spécifiques et des équipements de laboratoire et qui permettent de déterminer le niveau de contamination et savoir si on est dans les normes ou pas, et éviter ainsi le pire cas. Le pire cas, c'est la contamination interne. Voilà. Moi, je vous propose d'embrayer sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, mais aussi un petit peu fictif, sans partir dans le grand catastrophisme, etc. C'est très ambiance, là, avec 2012, machin chose. Non, là, on va essayer de voir ça avec plus de réalisme, parler de radioprotection et de comment pourrait-on réagir dans une situation pareille. Parce qu'on a vu les Japonais, ils étaient très, très... passifs, non, ça, ils le sont encore beaucoup trop. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de. Majoritairement, il n'y a pas de gens qui réagissent pour éviter la contamination interne. Mais d'après vous, comment on pourrait réagir en France? Comment ça pourrait se passer?
Alors, il y a. De ce que je sais, malheureusement, je ne me suis plus tenu au courant ces dernières années, à part le moment où il y a eu Fukushima. Je me suis à nouveau réintéressé au sujet parce que je suis, moi, comme beaucoup d'entre vous, intéressé au sujet depuis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années pour ce qui me concerne. Mais j'avais laissé ça un peu en stand-by. Et puis là, la catastrophe est arrivant. En 86, je m'étais intéressé à Tchernobyl. Et là, Fukushima est arrivé. Donc, je suis aussi intéressé, bien sûr. Mais donc, ce que je sais, en tout cas, pour ce qui concerne la France, c'est que la première chose, c'est que les abris anti-atomiques en France, ce ne sont, il doit y en avoir très, très peu. C'est simplement l'Assemblée nationale, le Sénat, l'Élysée qui ont des abris anti-atomiques.
Je vous en donne un dernier, mais vous le dites à personne, oui. Parce que c'en est un vrai. C'est les catacombes.
Ah, les catacombes, c'est voilà. Un endroit où on peut se protéger de...
Pour se protéger des rayons gamma, des choses comme ça, en d'accord. Cas d'attaque nucléaire, par exemple.
Ah bon, d'accord, ça, je ne savais pas. Tu vois, voilà. D'accord, très bien. Et puis, il y a aussi les pilules de diode. Alors, le problème des
n'y allez pas, hein, par contre, oui, n'y allez pas sans guide, parce qu'on s'y perd, on peut en mourir, hein, régulièrement. Il y a une police qui est
spécialisée dans les catacombes.
Spécialisée, mais ils récupèrent régulièrement des gens, ouais, qui sont perdus. On peut facilement avoir de gros problèmes dans les catacombes.
Alors moi, j'ai travaillé quelques mois avec EDF, je vais me faire cahier dessus, mais c'est pas du tout sur le nucléaire, j'étais pas du tout dans le domaine du nucléaire, mais j'étais avec le comité d'entreprise, hein, quelques mois avec eux, et j'ai compris par certaines conversations que j'ai pu entendre par mes gardes, hein, j'étais pas invité à venir à la conversation, mais je les ai entendues, en tout cas une partie, c'est que les gélules d'iode les fameuses pilules sont pour beaucoup
pilules
d'entre elles...
Pilules bleues ou pilules rouges?
Oui, c'est ça, mais pour beaucoup d'entre elles sont périmées. Donc il faut refaire les stocks.
C'est pas grave, on a une ministre qui a l'habitude.
Et en plus, bon, il y a les abris anti-atomiques qui sont pas... personne n'en a, donc déjà, là, à part les catacombes, personne n'est protégé par rapport à ça. Les gélules, pour beaucoup d'entre elles, sont périmées, donc il faut effectivement... Et puis, il y a les masques et tout ça, mais bon, ça ne sert à rien. Ça, c'est les masques... En fait, on n'a aucun moyen de se protéger d'une catastrophe nucléaire. Aucun moyen. Donc, la seule chose, c'est d'habiter à 300 km ou 400 km de la catastrophe, s'il y a une catastrophe arrivera en France. Mais le pays, la France, c'est 1000 km sur 1000 km. Fukushima, il disait au départ qu'à partir de l'épicentre, au bout de 10 km, on était en sûreté. Après, c'était 20, après, c'était 30, après, c'était 40. Mais en fait, la réalité, c'est 200, voire 300 km. Hein,
même plus que ça, ils ont des traces à plus de 500, 700 km au sud du Japon. Et quand on regarde la carte, on voit que la préfecture de Fukushima, la plus touchée, quasiment aux trois quarts, est contaminée. Hein, et plus de la moitié, très fortement. Donc, l'impact sur la France serait catastrophique. Hein, on perdrait la moitié de la France. Enfin, on perdrait... Non, tout va bien. Tout va bien. On serait obligé de vivre avec, ce qui générera forcément des conséquences.
Non, mais moi, je pense qu'il y a une solution. La solution, d'abord, elle est politique, parce que bon, dans les années 60, quand De Gaulle a demandé, a dit à la télévision qu'il était partant pour une énergie nucléaire et que tous les investissements sur l'énergie ont été sur le nucléaire pendant des années 60 jusqu'à maintenant. En gros, le budget qui est donné au nucléaire dans l'appareil énergie en France, enfin, quand l'État donne de l'argent à l'énergie, c'est 90% de cette somme qui va sur le nucléaire et 10% à peu près sur les énergies renouvelables.
Ça phagocyte complètement le.
Voilà.
Le
donc ça, voilà. Donc on n'est pas du tout dans un truc égal, en fait. Hein, c'est ça. Donc si on avait à l'époque fait effectivement 50% pour le nucléaire et 50% pour les énergies renouvelables, on n'en serait pas du tout là aujourd'hui.
Est-ce que ce serait réaliste de le faire 50%? Parce qu'avec toutes les installations qu'on a et la maintenance obligatoire, parce que là, on a quand même un sacré bébé sur les doigts, sur les bras, est-ce qu'on pourrait vraiment mettre que 50%? J'ai bien peur que ce soit tellement dévoreur de crédit que
bah, ce qui est dévoreur de crédit, c'est le démantèlement. Ça coûte très très cher, ça c'est sûr. Bon. Mais ça, le problème, c'est que quand ils ont fait leur budget, ils n'ont pas du tout pris en compte le démantèlement, le problème du coût en termes de santé publique en cas de maladie dans les populations, parce que ça coûte cher aussi à la sécurité sociale quand tu es malade d'un cancer, de la thyroïde à cause du nucléaire, ça coûte cher à la sécurité sociale. Donc, alors que les énergies renouvelables, elles coûtent plus cher, elles coûtent 7 à 8 fois plus cher à l'achat, ah, je suis d'accord. Une centrale solaire, c'est 7 milliards d'euros. D'accord ? Alors qu'une centrale...
Mais une belle, alors.
Oui, une belle.
On est déjà à 6 milliards sur l'EPR, hein, quand même.
Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, sur l'EPR, on est à 6 milliards.
7 milliards d'euros ?
Mais après, ça coûte rien.
C'est pas ce que j'ai
10
vu comme
milliards,
chiffre.
10 milliards, je sais plus combien, sur ITER, mais...
Oui, c'est ça.
On a pété les crédits, là.
Oui, mais parce que ça merde un petit peu à ce niveau-là. Hein, donc, c'est sûr. Mais
tout va bien.
Si au niveau de la construction, tout va bien, et que ça va dans les temps, il faut construire une centrale nucléaire sur 5 ans, en gros. Hein, c'est 5 ans de construction, 20 ans de vie normalement, logique.
Non, 40 ans.
Non, mais
ça a été poussé à 40 ans.
Oui.
L'EPR a été prévu même pour 60 ans, de fonctionnement.
C'est là le danger. Parce
exactement.
Que les scientifiques qui sont anti-nucléaires, et qui sont pourtant dans le nucléaire, mais qui sont anti-nucléaires, disent qu'une vie classique d'une centrale nucléaire de type 1000 MW x 4, parce qu'il y a 4 cheminées, on va dire. C'est 20 ans de vie. Au bout de 20 ans, ça peut être dangereux. Or, que fait la France pour éviter de construire d'autres centrales? Elle pousse les centrales 25, 30, 35, 40 ans.
Il n'y a pas que la France. Hein.
Oui, il n'y a pas que la France. Donc ça, c'est hyper dangereux. Alors moi, je dis que les énergies renouvelables, c'est plus cher à l'achat, mais après, ça ne coûte rien. À part le fait de payer les gens qui travaillent dans le système. Mais ça ne coûte plus rien. Et c'est sans danger aucun. Parce que le solaire, c'est le soleil...
Va te prendre un panneau sur la tête. Tu vas voir que
c'est
ça
vrai.
Fait pas du bien.
Mais bon, ça n'empêche que là, il y a un mensonge de l'État en France, comme ailleurs d'ailleurs, sur le nucléaire, qui considère que le coût du nucléaire, pour le français lambda, c'est deux fois moins cher que si on revenait au charbon. C'est une aberration absolument totale.
Oui, justement, comment se fait-ce ce mensonge?
C'est-à-dire qu'il y a un problème de lobby. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous gouvernent, hein, qui sont dans des groupements, dans des associations, dans des lobbies, qui dépendent. Il y a même des sénateurs et des députés qui ont peut-être un contrat ou qui sont avec EDF, etc., qui ont des liens très proches avec EDF. On l'a vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps.
Le lobbying
qui est très fort. On a même vu dans le Canard Enchaîné, j'ai vu ça dans un article dans le Canard Enchaîné il n'y a pas longtemps, qu'il y avait deux députés de droite, UMP, qui défendaient le EDF avec acharnement. Donc ça veut dire qu'ils ont quand même des intérêts dans la société. Mais c'est des problèmes, c'est des problèmes particuliers. C'est des problèmes, ils défendent leur beefsteak. Ils défendent leur beefsteak contre un danger qui permettrait de tuer éventuellement un certain nombre de milliers de personnes si la catastrophe arrivait. Donc, moi, je crois que ces gens-là devraient s'intéresser à l'ensemble de la population plutôt qu'à eux-mêmes. Et ça, on commencerait déjà à changer les choses.
Ouais, difficile, hein, parce que quand on se met au contact des gens, l'individualisme fait des dégâts. Hein, donc, c'est difficile de réfléchir autrement que de cette façon aujourd'hui. Tu parlais de milliers de victimes, moi, je dirais plutôt de millions, hein, parce que... Il y a des estimations qui étaient faites par alors toujours des scientifiques de différents pays. C'est pour Fukushima, c'est pas que les Japonais, hein, c'est vraiment il y a des Français, des Australiens, des Anglais,
des Britanniques,
des Américains, ouais. Tous ceux qui ont des centrales en général, sauf les pays émergents qui se lancent comme les Chinois actuellement, qui donnent leur avis et qui mettent en évidence que on se dirige clairement vers une catastrophe. Humaine sans précédent, pire que Tchernobyl, et où on estime déjà plus d'un million de personnes.
Ce million de personnes sur Tchernobyl, c'est un rapport qui est sorti à l'Académie des sciences de New York en 2010 et qui est issu des travaux de Nestor Evco.
Voilà. Donc, un million. Alors, moi, je parlais du Japon. Hein, pour un million de personnes de cancer mortel. Et je ne parle pas des cancers guérissables. Là, vont être légions. Hein, sans parler des maladies, comme tu donnais, dont les maladies cardiaques. Et ce qui est hyper inquiétant, quand même, dans la situation, oui, c'est qu'il existe un modèle par rapport à la situation.
J'ai lu, juste pour un petit détail, c'est pas un détail, hein, mais j'ai lu dans un excellent ouvrage, par contre j'ai oublié l'auteur, on va le retrouver, un de ces quatre, c'est Les Silences de Tchernobyl, écrite par une journaliste de Libération, qui a d'ailleurs fait des courts-métrages sur le problème du nucléaire, qui dit qu'effectivement, les essais nucléaires, rien que les essais des bombes nucléaires, entre 47 et 63, hein, a causé 300 millions de gens qui ont été atteints par les radiations. Ce n'est pas 300 millions de morts, attention. Hein. Il faut dire qu'il y a 300 millions donc, aux États-Unis et en Russie, principalement. Donc on va dire 150 aux États-Unis, 150 en Russie, mais je n'ai pas le chiffre exact. Hein, mais je sais qu'il parle de 300 millions de gens qui ont été atteints par les radiations. Alors dans ces 300 millions, il y a des morts, bien sûr, mais il y a aussi surtout des gens malades. Et les gens malades, au bout d'un moment, ils meurent, bien sûr. Ils meurent avant la vieillesse, avant la date critique normal, quoi, je veux dire.
Et toute la difficulté, après, évidemment, ça va être de faire le lien entre des maladies, des pathologies, les radiations.
Quoi. Absolument.
Car les cancers, d'origine liés à les radiations,
au milieu de tout le reste, des divers produits chimiques toxiques qu'on ingurgite par ailleurs dans l'alimentation.
Mais d'ailleurs, c'est l'argument que prennent les pro-nucléaires pour dire qu'effectivement, c'est pas dû aux radiations, mais dû à autre chose. Et donc, comme on ne peut pas prouver le contraire, on reste minoritaire, nous qui sommes.
Et c'est pratique pour tout le monde parce que les différents industriels, que ce soit les industriels de l'agrochimie, vont tous renvoyer éventuellement la responsabilité sur d'autres, sur le voisin, en disant que on vit dans un environnement qui est pollué et contaminé par plein de choses et que du coup on peut pas savoir la cause quoi.
Excuse-moi, je te coupe. J'ai regardé il y a pas longtemps pour le plaisir Soleil Vert. Tu parlais des pilules rouge et verte. J'adore ce film. J'ai regardé Soleil Vert et je me suis enregistré la scène où le mec retrouve une tomate. Une vraie tomate qu'il n'avait pas vue depuis son enfance. Ben, le problème avec le nucléaire, c'est qu'on va en arriver là. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on bouffera plus que des gélules pour se protéger des radiations, qu'on n'aura plus de tomates parce qu'elles seront toutes contaminées, qu'on n'aura plus rien, nulle part. Et donc, le nucléaire, c'est un danger, mais ça fait 25 ans que je le répète, mais je ne suis pas le seul. Mais moi, je répète à mon niveau, c'est-à-dire à personne, à ma glace. Hein.
Bon, ne partons pas trop dans le catastrophisme.
Bon, c'est vrai que c'est les fêtes, on va dire que le nucléaire, c'est super. Et puis,
Non. Moi, je vous propose de réagir, donc revenir à notre simulation, disons qu'une centrale pète. Allez, on ne sait pas ce qui se passe. Comment vous réagiriez, vous? Allez, faites-moi rêver.
Bon, ça dépend, elle pète tout ta catastrophe.
On ne sait pas. On ne sait pas encore, c'est un petit peu comme le nuage de Yacht 131 qui a été mesuré là.
Quand je regarde la carte de la France, et puis faite d'ailleurs par Santé Nucléaire, hein, sur le nombre de centrales qu'il y a en France, je n'irai certainement pas en France pour me protéger. Hein, parce que déjà, que ça va faire la boule de neige, hein, parce qu'une centrale pète en France, toutes les autres elles vont péter aussi. Quoi, boule de neige, quoi. Tu vois ce que
à
je veux
ce point-là.
Je ne sais pas. Donc je partirai, moi, très très loin. Je partirai dans une île. Dans le Pacifique, océan Indien, n'importe où, au plus loin possible, quoi, le plus loin possible. Si je peux.
Tu pars pas tout de suite parce que.
non, je sais, mais j'ai pas l'argent, mais bon, si j'avais l'argent pour partir, je partirais.
Donc t'es bloqué. Et t'auras
plus d'argent au moment de l'accident.
Non, pas plus.
Ouais, parce que c'est ça le problème. Il y a pour plein de Japonais qui voudraient, et notamment des mères, enfin des familles qui voudraient protéger leur enfant, qui voudraient partir des zones contaminées, ils ont pas les sous. Puis bon, c'est pas évident pour.
C'est encore les pauvres.
C'est pas évident de quitter son. Son lieu de vie. Un truc quand même sur Fukushima, sur cette interdiction du riz. Le riz au Japon, c'est quand même un élément important de l'alimentation. L'interdiction du riz ou la contamination du riz, c'est quand même pas rien. Et la région de Fukushima au Japon, c'est la quatrième région productrice de riz au Japon. Hein. C'est quand même au niveau agriculture alimentaire, c'est quand même assez sérieux ce qui se passe.
D'autant qu'elle exporte
beaucoup. Sans compter les pollutions maritimes, enfin de la mer, mais avec
les poissons,
la pêche, etc.
Bien sûr. D'autant qu'elle exporte beaucoup. Hein, le Japon, comme tous les pays de ce coin-là, ils exportent beaucoup.
Notamment les voitures qui sont après arrêtées en Russie parce que trop radioactives. Ou même les pneus, d'ailleurs.
En cas de catastrophe nucléaire en France, en tout cas, tu parlais de catastrophe nucléaire pour faire une simulation. En cas de catastrophe nucléaire en France, mais au Japon à côté, c'est la rigolade, quoi. Je veux dire, parce que en France, c'est un pays qui est pas plus petit, mais c'est plus concentré, on va dire. Parce qu'il y a 19 centrales, mais 58 réacteurs, quoi.
Enfin, les 54 réacteurs au Japon, c'est quand même beaucoup aussi.
Oui, 54 réacteurs au Japon, c'est vrai.
Voilà,
c'est vrai.
Alors, il y a quand même, parce que pour finir, on n'est pas loin de la fin de l'émission, quand même sur une. Petite note positive, c'est qu'il n'y a plus que 7 réacteurs en fonctionnement sur ces 54 depuis les tremblements de terre et le tsunami. Il n'y a plus que 7 réacteurs au Japon. Et il est probable qu'une bonne partie d'entre eux ne redémarre pas. Ils essayent d'en redémarrer un, là, notamment, qui, en plus de ça, pourrait redémarrer au MOX direct. Mais bon, c'est le Japon, après cette catastrophe, je pense que beaucoup de gens ont compris. On peut espérer qu'une grosse majorité de ces réacteurs arrêtés ne redémarreront pas.
Est-ce qu'on va leur laisser le choix? Parce que là, actuellement, c'est peut-être pas vraiment la direction dans laquelle
on se dirige.
Ouais. Hein, parce que clairement, tout va bien là-bas. Les annonces faites sont dans ce sens. Hein, donc...
Mais ce qu'il faudrait, c'est que ça fasse que les autres gouvernements prennent la même décision. Par exemple, en France, moi, je suis français, donc je parle de la France parce que je connais quand même mieux ce pays que les autres pays. Mais en France, il faudrait que M. Sarkozy ou son gouvernement prennent une décision, non pas du pro-nucléaire qu'ils continuent à prendre aujourd'hui, mais au moins, je ne dis pas d'un arrêt total, parce que je sais que ce n'est pas dans leur culture. Hein, ils sont pro-nucléaires depuis toujours, donc au moins d'une réduction, voilà. C'est-à-dire les centrales les plus vieilles et les plus dangereuses, on les arrête, quoi. Et on les remplace par quelque chose d'autre, je ne sais pas. Je n'ai pas la solution, parce que je ne suis pas scientifique, mais on les remplace par quelque chose d'autre quand même, quoi, tu vois.
Mais vous êtes contre le progrès, vous voulez retourner à la bougie?
Exactement. Bah, à la limite, s'il fallait faire le choix entre la bougie et le nucléaire, je prendrais la bougie. Absolument.
Oui, il y a autre chose que la bougie.
Moi, je la garde pour mes soirées intimes.
Je m'en doutais.
Bon, bah, écoutez, l'émission se termine tout doucement. Moi, je vais parler de une petite chose qui me tient à cœur, c'est la neutralité du net. Parce que c'est vrai que ça ne marche pas bien là, en ce moment. Il y a beaucoup d'attaques sur ce thème-là. Et petit à petit, ils réussissent à bloquer un petit peu tout cet aspect de neutralité qui permet à tout le monde de dialoguer, de discuter, de s'informer de manière plus juste, on va dire. Donc, restons attentifs. On a besoin du net, on en a besoin pour l'avenir aussi. Ça créera du boulot, ça permettra de s'informer aussi, de comprendre les conséquences de nos actes aussi. C'est important. Et puis je parlerai aussi sur le net d'un site qui est sympa, qui s'appelle ecopedia.fr, où vous trouverez plein d'astuces sur le plan écologique et plus, sur lequel vous pourrez vous baser et vous informer. Voilà, Ecopedia, ecopedia.fr, un site assez sympathique. Est-ce que vous avez des infos mis à part l'arrivée du gros bonhomme à la barbe blanche, habillé en rouge?
Moi, je sais qu'il va bientôt y avoir une grande chaîne humaine faite par Greenpeace bientôt dans plusieurs villes de France, comme Lyon, etc. Lyon, je crois qu'il y a Lyon, il y a, je ne sais pas s'il y a Bordeaux, mais enfin bon, il y a plusieurs villes. Ce n'est pas tout de suite. Hein. Mais il faut quand même, ce que je demande aux éditeurs et aux auditrices, c'est quand même de s'informer. Donc, il y a le site de la CRIA, tu l'as cité, il y a sortir du nucléaire. Et de éventuellement changer un petit peu leur pratique, ne serait-ce qu'en termes d'électricité, c'est-à-dire éventuellement de faire d'éteindre la lumière la nuit, enfin de faire
plus que ça.
Oui, dis-moi.
Clairement, en France, on veut pas faire de changement. On veut pas nous laisser aller vers cette révolution énergétique. Fouillez Internet, il y a des solutions.
Exactement.
Bon, ben voilà, l'émission se termine. Pendant que Cyril prépare la petite musique de fin, eh ben écoutez, moi je vous dis à bientôt. Merci à tout le monde et à bientôt, Gilles.
Merci les gars. Ciao.
À plus, Cyril.
Le dimanche à Tchernobyl, j'empile torchon béni. Évangile, mes paupières sont lourdes, mon corps s'engourdit. C'est pas le chlore, c'est pas la chlorophylle. Tu m'irradieras encore longtemps, bien après la fin.
Et tout de suite, on va écouter Musique Anti, qui aura peut-être quelque chose de plus gai à nous proposer.
Le dimanche à Tchernobyl, j'arrange le soleil, j'arrange les sardines. Dans la rougeur des canaux, à la centrale, il y a carnaval, Java, Javel, cerveau, vaisselle. Chaque jour se rit de moi, à de l'or.